Laissons les intégristes du purisme gloser à satiété et condamner aux gémonies ces troubadours qui ont osé mettre en musique et chanter les vers de nos grands poètes. Plus prosaïquement, posons-nous la question. Combien de personnes ont découvert ces poèmes par les chansons de ces troubadours qui ne se sont jamais cachés d'en avoir emprunté les textes? Et combien les connaîtraient alors qu'ils étaient dissimulés au sein de recueils que l'école n'a que rarement explorés, autant dire à la seule portée de purs amateurs de poésie? Les exceptions ayant, paraît-il, le rôle de confirmer les règles, nous ne craindrons donc pas de mettre en exception un poème du Moyen-Âge, signé de celui qui fut considéré comme le premier poète français lyrique moderne, François Villon, et cette fois on peut dire que l'école était au rendez-vous, bien avant que Brassens ne nous le chante, la ballade des dames du temps jadis.
Dites-moi où, dans quel pays et Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet essoine. Semblablement tout est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Prince n'enquérait de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
Pour que cette ballade moyenâgeuse s'intègre dans une chanson, Brassens a dû lui faire subir quelques petites touches, vraiment à minima, puisqu'il s'est contenté de bisser les deux derniers vers de chaque strophe, le premier en suspension, le deuxième avec retour à la tonalité. Emportés par leur élan, certains n'ont pas hésité à attribuer à Villon une autre ballade imitant à souhait le style de ces années autour de 1450. Villon était né en 1431, quand même. Année mémorable où les Anglais et la très sainte Église catholique, réunis, organisaient à Rouen un méchoui géant dont l'agneau s'appelait Jeanne d'Arc. Cette ballade, très villonesque, il est vrai, a été mise en musique et chantée par notre maître Georges. Ce qui pouvait, il est encore vrai, ajouter à la confusion, sauf que pour les plus attentifs. Et pourtant, elle était du Moulinois Théodore de Banville, oui, du Moulinois, coco quand même, Théodore de Banville, 1823-1891, les vergers du roi Louis.
Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Maure, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltiges palpitants encore. Le soleil, le vent les dévore, regardez les cieux éblouis, danser dans les feux de l'aurore, c'est le verger du roi Louis. C'est pendu du diable entendu, appelle des pendus encore, tandis qu'aux cieux d'azur tendus où semble luire un météore. La rosée en l'air s'évapore, un essaim d'oiseaux réjouit. Par-dessus leur tête picore, c'est le verger du roi Louis. Prince, il est un bois que décore un tas de pendus enfouis. Dans le doux feuillage sonore, c'est le verger du roi Louis.
Brassens, déjà très fécond par ses propres écrits, n'a pas éprouvé le besoin de mettre en chanson des textes d'époque intermédiaire, comme le XVIIe ou le XVIIIe. Mais on l'a vu avec Victor Hugo et même avec Banville, il n'a pas pu zapper la période extrêmement féconde que fut le XIXe siècle, débordant évidemment sur le XXe en fonction de la longévité des auteurs. Pourquoi serait-il passé à côté de Lamartine et ne lui aurait-il pas emprunté un texte qui lui ressemble, La pensée des morts ?
Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà l'errante hirondelle qui rase du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères le bois tombé des forêts. C'est la saison où tout tombe au cours redoublé des vents. Un vent qui vient de la tombe moissonne aussi les vivants. Ils tombent alors par mille, comme la plume inutile que l'aigle abandonne aux airs. Lorsque des plumes nouvelles viennent réchauffer ses ailes à l'approche des hivers, c'est alors que ma paupière vous vit pâlir et mourir, tendre fruit qu'à la lumière Dieu n'a pas laissé mûrir. Quoique jeune sur la terre, je suis déjà solitaire parmi ceux de ma saison. Et quand je dis en moi-même, où sont ceux que ton cœur aime, je regarde le gazon. C'est un ami de l'enfance qu'au jour sombre du malheur nous prêta la Providence pour appuyer notre cœur. Il n'est plus, notre âme est veuve, il nous suit dans notre épreuve et nous dit avec pitié: ami, si ton âme est pleine de ta joie ou de ta peine, qui portera la moitié? C'est une jeune fiancée qui, le front ceint du bandeau, n'emporta qu'une pensée de sa jeunesse au tombeau. Triste hélas, dans le ciel même, pour revoir celui qu'elle aime, elle revient sur ses pas et lui dit: ma tombe est verte sur cette terre déserte. Qu'attends-tu? Je n'y suis pas. c'est l'ombre pâle d'un père qui mourut en nous nommant. C'est une sœur, c'est un frère qui nous devance un moment. Tous ces enfants dont la vie un jour ou l'autre ravie emporte une part de nous, semble dire sous la pierre, vous qui voyez la lumière de nous, vous souvenez-vous. Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà l'errante hirondelle qui rase du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères, le bois tombé des forêts.